Laudetur Jesus Christus.
Soit nous renforçons le multilatéralisme, soit nous préférons le nationalisme. Dans un monde à la croisée des chemins, le pape François interpelle la communauté internationale. Le souverain pontife a adressé hier un message vidéo à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, souhaitant que la crise actuelle soit une opportunité pour régénérer les relations internationales. Nous y revenons au début de ce journal. Au sommaire également, la gestion du retour des anciens combattants de l'État islamique en Turquie, entre emprisonnement et surveillance. Ce journal fera aussi la part belle aux animaux. Nous vous emmènerons au Kenya où la population d'éléphants connaît un net regain. Et puis alors que s'achève le 4 octobre prochain la saison de la création en la fête de Saint-François d'Assise, nous nous sommes demandé quelle place les chrétiens doivent-ils accorder aux animaux et à leur protection. Dans notre dossier à la fin de ce journal, nous verrons en quoi le rôle du christianisme dans leur défense est essentiel.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la pandémie au cœur du message vidéo du pape à l'ONU hier à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies. François est intervenu lors de la semaine de haut niveau qui réunit à New York et virtuellement les chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Dans son adresse, le Saint-Père souhaite que la crise soit une opportunité pour régénérer les relations internationales. Les précisions de Xavier Sartre.
Avec la crise, le monde se trouve à la croisée des chemins. Ou nous renforçons le multilatéralisme, ou nous préférons le nationalisme, le protectionnisme, l'individualisme et l'isolement, laissant ainsi de côté les plus vulnérables. Le choix du pape est évidemment celui du multilatéralisme et de la paix. Or, cette voie qui semblait avoir été empruntée il y a 5 ans quand François se rendit à l'ONU et quand fut adopté l'accord de Paris sur le climat, est réduite à de belles intentions et à très peu d'actes. En témoigne la situation de l'Amazonie et de ses peuples indigènes. Plus généralement, c'est le climat de méfiance qu'il faut rompre, affirme le pape. Et pour cela, il faut démanteler les logiques perverses qui attribuent à la possession d'armes la sécurité personnelle et sociale. En fait, cela ne sert que les intérêts des industries belliqueuses, estime François, et ne fait qu'alimenter la méfiance et la crainte entre les peuples et les personnes. François renouvelle ainsi son appel à un désarmement nucléaire et espère que la prochaine conférence sur le traité de non-prolifération de ces armes débouche sur des actions concrètes pour cesser la course aux armements et entamer la voie du désarmement. Dans cette optique, l'ONU doit devenir un atelier pour la paix plus efficace. Le pape invite ainsi les membres permanents du Conseil de sécurité en particulier à davantage s'engager comme ils l'ont fait avec le cessez-le-feu global pendant la pandémie.
Xavier Sartre, et aujourd'hui a lieu justement la journée contre le désarmement nucléaire. Xavier Sartre, un discours du pape à retrouver évidemment plus en détail sur notre site vaticannews.va. Le Saint-Père qui a envoyé hier un autre message, il s'est adressé aux participants de l'Assemblée plénière annuelle du Conseil des conférences épiscopales européennes qui se tient en ligne cette année. Dans son message, François invite les prélats à identifier les voies de la proximité paternelle et tendre avec le peuple en ce temps de crise sanitaire. Parmi les autres prises de parole de responsables internationaux à l'ONU hier, notons celle du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a demandé aux Nations Unies l'organisation d'une conférence internationale début 2021 sur le sort des Palestiniens. Autre intervention, celle du premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui a appelé le président turc Recep Tayyip Erdogan à donner une chance à la diplomatie alors que les tensions sont fortes entre les deux pays en mer Méditerranée orientale. Voisine à la fois de la Syrie et de l'Irak, la Turquie justement, est l'un des pays du monde qui a enregistré le plus de départs de ses citoyens vers les rangs du groupe État islamique. Elle a été aussi l'un des pays les plus durement frappés par les attentats attribués à ce groupe terroriste. Mais alors que l'organisation terroriste a perdu ses sanctuaires syriens et irakiens, se pose la question du retour de ses anciens membres dans leur pays d'origine. Comment gérer ces retours? La réponse turque se concentre sur l'emprisonnement et la surveillance. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
Les autorités turques n'ont jamais publié de chiffres sur leurs ressortissants partis rejoindre les rangs du groupe État islamique en Syrie et en Irak, ni sur ceux qui en sont revenus. L'ONG International Crisis Group, qui a rencontré pour un rapport d'anciens membres du groupe terroriste et des officiels turcs, estime qu'ils sont plusieurs milliers à se trouver aujourd'hui en Turquie. Seule une petite partie est en prison, le plus souvent pour 3 ou 4 ans. Selon Nigar Göksel, directrice Turquie de l'ONG, leur cas est avant tout traité sous l'angle sécuritaire.
La réponse des autorités repose sur une surveillance étroite des suspects, sur l'analyse des nombreux documents saisis lors de raids, sur une clause de remords qui permet aux revenants de l'EI d'obtenir des réductions de peine en échange d'informations sur ceux qui ont rejoint le groupe, son fonctionnement, sa structure, et enfin sur l'infiltration de cellules de l'EI et des réseaux de passeurs.
Selon l'experte, ces méthodes ont permis d'empêcher de nouvelles attaques depuis janvier 2017. Son collègue Berkay Mandaradje, co-auteur du rapport, note toutefois des lacunes dans l'accompagnement et la prévention.
Il y a un manque de programme post-libération pour ceux qui ont été emprisonnés. Cela pourrait prendre la forme d'un accompagnement des familles. Beaucoup de celles que nous avons rencontrées nous ont confié ne pas savoir comment aborder leurs proches. Par ailleurs, il manque une vraie politique de prévention pour soutenir les jeunes qui pourraient encore être tentés par ces mouvements djihadistes.
D'autant que la menace reste présente, les forces de sécurité annoncent encore régulièrement le démantèlement de cellules du groupe État islamique sur le territoire turc. À Istanbul, un loi pour Radio Vatican.
En France, un huitième suspect a été mis en garde à vue après l'attentat à l'arme blanche hier dans le 11e arrondissement de Paris, non loin des anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux journalistes travaillant pour une agence de presse ont été grièvement blessés. Un nouvel attentat qui a provoqué une grande émotion alors que le procès des attaques meurtrières de janvier 2015 se tient en ce moment. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. En Inde, des milliers d'agriculteurs ont défilé hier dans plusieurs états du pays. Ils protestaient contre une série de lois votées cette semaine au Parlement qui visent à libéraliser le commerce des denrées alimentaires. Dans la plupart des régions indiennes, seuls les pouvoirs publics peuvent acheter aux producteurs à un prix minimum garanti. Avec cette réforme, le gouvernement indien espère accroître le revenu d'un secteur qui emploie 40% des actifs. À New Delhi, la correspondance d'Emmanuel Derville.
Voilà plus d'un an que le Premier ministre Narendra Modi répète qu'il va doubler le PIB de l'Inde d'ici 2022. Le chef de la droite fondamentaliste hindoue veut transformer son pays en superpuissance. Les mesures approuvées cette semaine au Parlement s'inscrivent dans ce cadre. Elles sont censées doper le secteur agricole, qui est le premier employeur du pays, et multiplier par deux le revenu des agriculteurs. Avec cette réforme, les paysans pourront vendre au secteur privé et ne seront plus obligés de passer par les marchés de gros contrôlés par l'État. Mais les agriculteurs craignent que les groupes agroalimentaires leur imposent des tarifs trop bas et ils soupçonnent le gouvernement de vouloir à terme démanteler le système des prix garantis. Ce scénario permettrait à certaines entreprises privées proches de la droite hindoue de traiter seules avec les cultivateurs. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Au Nigeria, les djihadistes ont encore frappé dans le nord-est du pays. 15 personnes ont été tuées hier dans une embuscade. Il s'agit de policiers, de militaires, membres de l'escorte du gouverneur de l'état de Borno, qui lui est sain et sauf. L'état du Borno, qui est depuis des années la base arrière de groupes terroristes, a commencé par Boko Haram. C'est une excellente nouvelle et même une victoire pour la conservation de la vie sauvage au Kenya. Le pays enregistre en effet un véritable baby-boom chez les éléphants depuis le mois de janvier. Ces pachydermes braconnés pour leur ivoire sont en voie de disparition, mais leur nombre a doublé au Kenya ces 30 dernières années. Écoutez le reportage de notre correspondante à Nairobi, Charlotte Simonard.
Au cœur du parc national du Tsavo, au volant de sa voiture de safari, Peter Ndovi, guide touristique depuis 30 ans.
Regardez là, sur la gauche, c'est une famille d'éléphants avec trois petits. Avant, c'était très rare d'en voir, mais aujourd'hui, une famille de 10 éléphants compte en général 5 éléphantaux.
Des records de natalité sont observés dans plusieurs parcs du pays. Pour comprendre, il faut remonter 2 ans en arrière, soit le temps de gestation chez les éléphants. Les pluies étaient alors abondantes et la végétation plus dense, ce qui a permis aux femelles, en meilleure forme, de mener à terme leur grossesse. Peter Ndovi s'approche de ce groupe d'éléphants.
Il y a quelques années, ils étaient toujours peureux et prêts à attaquer. Aujourd'hui, je peux approcher la voiture très près des éléphants et ils restent gentils car ils ne sont plus braconnés.
La lutte anti-braconnage a permis de doubler le nombre d'éléphants au Kenya jusqu'à 34 000 à ce jour. Un miracle pour Richard Moller, défenseur de l'environnement.
C'est extraordinaire. Le braconnage a chuté entre 70 et 80%. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Une volonté politique, la pression des populations locales et de la communauté internationale sur le gouvernement. Mais il y a surtout la loi kényane sur le braconnage, révisée en 2013. Les peines ont été alourdies pour les braconniers et toute personne arrêtée en possession d'ivoire.
Les braconniers risquent désormais la prison à vie. Nairobi, Charlotte Simonard pour Radio Vatican.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande à ce que la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle ivoirienne soit reconsidérée. L'ancien chef de l'État de 2000 à 2010 ne figure pas sur les listes électorales et ne pourra donc briguer un nouveau mandat le 31 octobre prochain. La protection de la création et de la vie sous toutes ses formes est, on le sait, l'un des fers de lance du pontificat du pape François. Le choix du Saint-Père de choisir comme nom de pape François, en hommage bien entendu à saint François d'Assise, saint patron des animaux, en est l'un des signes les plus évidents. En pleine année Laudato Si, 5 ans après la parution de l'encyclique éponyme du pape, et à l'occasion de la saison de la création célébrée durant tout le mois de septembre, quelle place les chrétiens doivent-ils accorder aux animaux, à leur protection, alors que s'achève cette saison de la création le 4 octobre prochain, fête de Saint-François. Retour ce matin sur les liens entre les animaux et la foi chrétienne. À l'heure où une espèce sur trois est menacée de disparition, le rôle du christianisme dans leur défense est fondamental. Le regard ce matin de Christophe Levallois, il est le cofondateur d'orthodoxie.com et auteur d'un ouvrage « Le loup et son mystère » publié chez Courrier du Livre.
Les animaux sont créés pour certains d'entre eux le même jour que l'être humain, le 6e jour, d'autres le 5e jour. Et puis, il y a aussi le fait que Adam nomme les animaux, il établit une relation très étroite avec les animaux. Tout au long de la Bible, les animaux sont très présents, comme ils sont aussi très présents dans la tradition chrétienne en général. Certains plutôt considérés comme hostiles, je pense au loup par exemple, tandis que d'autres, bien sûr l'agneau, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et au contraire considéré pour sa grande valeur. Le prophète Isaïe nous dit que lorsque le paradis sera en quelque sorte reconstitué dans les temps à venir, eh bien le loup et l'agneau habiteront ensemble. On a là justement une réunion des antagonismes qui sont nés après la chute. Le Christ dit dans les évangiles à ses disciples « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Donc on a cet antagonisme qui est présent à la fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament.
Ces occurrences animalières sont très présentes aussi dans les évangiles, les paroles sont imagées, jusqu'à même la personne du Christ, hein, tantôt lion, tantôt agneau. Pourquoi selon vous ce fort symbolisme? Qu'est-ce qu'il apporte?
Les animaux sont une partie de la création. Toute la création nous parle de Dieu et du message qu'il adresse aux êtres humains pour leur salut. Par conséquent, très rapidement, on a vu aussi dans les animaux certaines qualités ou certains défauts qui, pour les qualités, sont utiles au salut parce qu'elles représentent des vertus, tandis que pour les défauts, ce que l'on appelle les vices ou les passions, sont des obstacles. Il y a constamment ce dialogue qui s'opère entre l'être humain et la création. La création lui enseigne aussi les voies de Dieu.
Comment considérer justement l'homme et l'animal à, entre guillemets, leur juste place, notamment aujourd'hui? Je pense à éviter d'un côté leur surexploitation, mais de l'autre la dérive antispéciste aussi.
C'est une relation que l'on voit émerger à partir du 19e siècle. Et effectivement, il y a eu d'une part tout un courant qui considère l'animal, mais aussi malheureusement très souvent l'être humain comme un objet, mais de l'autre aussi une attention qui a toujours été présente dans l'histoire. On le voit par exemple dans les vies de saints. Cette conscience s'est aujourd'hui fortement élargie, retrouvée des choses, des relations qui existaient il y a plusieurs siècles, avec les sociétés anciennes où l'on reconnaissait l'animal comme un être qui avait aussi sa destinée. Et les chrétiens, me semble-t-il, ont vraiment quelque chose à apporter en puisant dans leur tradition. Le reconnaître comme un être vivant qui a aussi droit à tous les égards dus à tous les êtres vivants. Je prendrai juste une figure, celle de François d'Assise. Lors de l'épisode du loup de Gubbio qui est rapporté dans les Fioretti, il parle de son frère loup comme il parle aussi de son frère et de ses sœurs pour les autres parties de la création. Nous sommes au Moyen-Âge. On voit là déjà une considération très forte, une fraternité même établie entre l'être humain et puis les autres membres de la création.
Quel rôle les chrétiens auraient à jouer aujourd'hui dans cette lutte, entre guillemets, pour la protection animale?
Les chrétiens, dans leur tradition, accordent du soin à l'autre. Et l'animal est aussi un autre. Claude Lévi-Strauss disait que l'animal est le plus autrui des autruis. Donc il y a dans la tradition chrétienne tous les éléments pour accorder, pour travailler, et de manière très concrète, il y a tout un ensemble de questions qui se posent, l'élevage industriel, la question de la vivisection, l'exploitation, de la maltraitance d'animaux aussi. Il y a dans la tradition chrétienne de quoi à la fois nous inspirer pour y répondre et pour y apporter d'heureuses réponses.
Voilà, les animaux et le christianisme à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Delphine Allaire, Christophe Levallois, essayiste, cofondateur d'orthodoxie.com, récemment auteur du Loup et son mystère, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h en direct de Rome pour un nouveau journal. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.